Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages.
Hekla is the queen. It's the queen of the volcanoes.
Hekla, c'est la reine des volcans d'Islande. Donc, on peut dire qu'elle est la reine de l'Islande.
This is a great mountain and it's female.
C'est une montagne importante. Et comme c'est un mot féminin, on en parle toujours en disant elle.
Hekla was the door to hell.
Hekla était jadis considérée comme la porte des enfers, mais pour moi c'est seulement une montagne et je ne me sens pas en danger ici.
Quand on vit à ses côtés, on n'y fait pas trop attention. Les gens de Reykjavik s'y intéressent sans doute bien plus que nous et c'est normal que les touristes s'y intéressent aussi. C'est une vraie curiosité naturelle, surtout si vous n'avez jamais vu de volcan.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Cette semaine, on part tout au nord de l'Europe, aux portes du cercle polaire arctique, sur une île dite de glace et de feu, l'Islande. Là-bas, on peut régulièrement entendre et voir le cœur de la planète battre, avec ses innombrables volcans, geysers, champs de lave, sources chaudes ou plages de sable noir. Sachant que sur les 130 volcans que compte l'Islande, plus d'une trentaine sont actifs. Là-bas, la dérive des continents se vit en temps réel. Le pays étant à cheval, à la frontière des plaques tectoniques, se trouvant ainsi traversé de multiples fissures, le long desquelles ont surgi les fameux volcans. Parmi eux, parmi ces géants de lave qui dominent les paysages et la vie des Islandais, la reine, on l'a entendu, s'appelle Hekla. Hekla, c'est une montagne de feu que l'on dit imprévisible, impétueuse, dangereuse, avec une vingtaine d'éruptions en un peu plus d'un siècle, ce qui en fait l'un des volcans les plus actifs de l'île. Hekla, c'est aussi l'antichambre de l'enfer. Une image colportée, dit-on, par des moines cisterciens au Moyen-Âge. Et puis Hekla, c'est un monstre de la nature, comme il en existe tant dans les croyances vikings et nordiques. Jules Verne s'en serait d'ailleurs inspiré pour écrire son voyage au centre de la Terre. Mais nous, cette semaine, avec Brice Andlauer parti là-bas, c'est bien les deux pieds sur Terre que nous allons voyager. Direction les hautes terres du sud islandais, là où règne en majesté le stratovolcan, la reine Hekla.
Ça me fait toujours plaisir de la voir. Vous savez, quand vous empruntez la route du sud, quand vous longez la côte, il y a un moment où elle se révèle, où elle apparaît. Et les jours de beau temps, elle s'impose. Et elle est magnifique. C'est vraiment une montagne magnifique, splendide. Mais en même temps, vous pouvez sentir ce danger imminent. Et vous vous mettez toujours à penser... Est-ce qu'il serait sage de l'escalader, d'en faire l'ascension? Et c'est ce mélange de beauté et de danger qui, je pense, pour la plupart d'entre nous, nous connecte avec elle. À vrai dire, l'un de mes premiers souvenirs est un souvenir d'Hekla. Parce que, à l'âge de 4 ans, j'ai été envoyée dans une ferme dans le sud de l'Islande. C'était chez ma tante. Elle était agricultrice là-bas et j'ai dû y passer mon été. Et j'ai ce souvenir d'Hekla. On était dans les collines alentours et elle était couverte de baies, des myrtilles, des camarines. Elle sentait très bon. Elle est bleue et blanche au sommet et elle gouverne le paysage autour d'elle. En général, quand vous traversez le sud de l'Islande, vous pouvez la voir.
Alors nous sommes à la ferme de Selsund, qui est une ferme de moutons, au pied du volcan Hekla. C'est difficile de s'en approcher plus. La ferme, c'est trois petites maisons en bois et avec des toits de tôle, marron et vert, qui est à l'abri d'une petite colline rocailleuse. C'est une très belle journée de septembre aujourd'hui, on est au milieu des montagnes, de prairies verdoyantes, Il y a une petite centaine de moutons étalés dans une immense prairie qui sont en train de se reposer et de brouter tranquillement. Quelques oiseaux qui s'envolent au milieu de rares bouleaux. Et on a rendez-vous avec toute la famille qui est installée ici depuis plusieurs générations. Hi. Donc vous avez combien de moutons ici?
We have about 250.
On a environ 250 adultes et avec les agneaux ça fait 600 bêtes peut-être.
Est-ce que c'est beaucoup pour l'Islande?
Non,
c'est une petite ferme.
There you can see Hekla. You can see
et là,
the top
on
of
peut
it.
Voir Hekla. Vous pouvez voir son sommet.
Hekla looks a bit like a pyramid.
Hekla ressemble un peu à une pyramide. Elle est bleue en bas
down,
et blanche au sommet. C'est de la neige toute récente. Elle est tombée ces deux dernières semaines.
Et son sommet pointu et enneigé blanc qui apparaît derrière une petite colline de roches volcaniques.
Yes, now we can begin to see.
Oui, et là, on commence à voir la lave. C'est plutôt vert ou gris. C'est de la lave de l'éruption de 1947. C'est une colline très pentue. Et la lave a coulé tout au long comme de l'eau rougeoyante.
C'est de la mousse qui a recouvert la lave qui a été tombée en 1947.
And that is...
Oui, et ici, cette colline, on l'appelle Norderrhein, la lave du nord, et elle est venue de Hekla, par le nord. Et celle-là, c'est Söderrhein, la lave du sud. Elle est arrivée par le sud, derrière cette montagne. Les coulées de lave ont formé comme un fer à cheval, tout autour de nous, ici, à Selsund.
Et en fait, on est sur un grand champ de plusieurs hectares, qui est entouré par deux collines qui font chacune à peu près 20 mètres de haut. Et chaque colline, en fait, c'est des roches volcaniques qui datent de précédentes éruptions de Hekla. Et tout au fond, on aperçoit Hekla qui domine cette vallée. Should we come in?
Yes.
Cool, thank you.
My name is Björk Rúnarsdóttir.
Mon nom est Björk Rúnarsdóttir. J'ai 56 ans et je vis ici à la ferme de Selsund depuis 1991.
My name is Gunnheiður. I'm 22 years old.
Je m'appelle Gunnheiður. J'ai 22 ans. J'ai vécu ici de ma naissance jusqu'à mes 19 ans et puis j'ai déménagé. Je suis assistante commerciale pour l'instant, mais je vais étudier la bio-ingénierie. J'ai passé une partie de l'été ici et je reviens dès que j'ai des vacances.
Mon mari est originaire de cette ferme. Il a vécu toute sa vie ici. Moi, j'habitais une autre ferme qui est un peu plus loin, à environ 7 kilomètres. J'ai vu 4 éruptions d'Hekla dans ma vie, mais aussi d'autres ailleurs en Islande, et ça ne m'a jamais fait peur. Quand j'avais 2 ans, en 1970, j'ai dit « la pluie est très moche ». Je regardais par la fenêtre et je répétais « c'est une pluie très moche ». C'est la seule chose négative que j'ai jamais dite à propos d'un volcan.
La seule retombée de cendres dont je me souviens est celle de l'Eyjafjallajökull en 2012, même si ce volcan est beaucoup plus loin que Hekla. Mais comme le vent soufflait dans cette direction, on a eu beaucoup de cendres ici.
Cette éruption est très connue des gens en France puisqu'elle a bloqué le trafic aérien pendant plusieurs semaines.
Oui, il y a eu beaucoup de cendres ici.
Donc ce n'est pas nécessairement Hekla qui est notre première source d'inquiétude. Ça dépend du vent, principalement.
It's not very dangerous.
Si les cendres arrivent par ici, ce n'est pas dangereux. On n'est pas obligé de rester confiné à l'intérieur. Mais il faudra quand même se couvrir le nez et la bouche. Et on devra rentrer les moutons pour qu'ils ne mangent pas les cendres. On ne devra pas forcément s'enfuir en courant, il y aura assez de temps. On pourra attendre et observer dans quelle direction la lave coule. Mais en vérité, je n'y ai pas beaucoup réfléchi.
On n'y pense pas vraiment.
C'est juste une belle montagne, je pense.
Je ne regarde pas Hekla différemment de la manière dont je regarde les autres montagnes. Même en islandais, on utilise pratiquement le même mot pour dire volcan ou montagne. On dit montagne ou montagne de feu, c'est la traduction littérale.
Combien de temps ça prend de monter au sommet de Hekla ? Est-ce que vous êtes déjà monté au sommet ?
Je ne l'ai jamais fait. C'est peut-être l'unique mesure de sécurité que mes parents prennent. Ils ne veulent pas marcher sur Hekla avant que la prochaine éruption ait eu lieu. Parce que Hekla fonctionne la plupart du temps de la manière suivante. Plus il y a de temps entre les éruptions, plus elles sont importantes. Donc, d'une certaine façon, ce serait un soulagement si elle entrait en éruption. Oui, d'une certaine manière. Je serais probablement beaucoup plus excitée que ma mère. Je suis née en 2002, soit 2 ans après la dernière éruption, donc je n'ai jamais vu une éruption de Hekla. Mais je ne serais pas plus excitée que pour d'autres éruptions volcaniques. Je la regarderai, je prendrai une photo, mais après, je rentrerai à l'intérieur pour continuer à lire mon livre.
On peut dire que les volcans sont très populaires en Islande. Nous avons plus de 30 volcans en activité dans le pays. Et il y a des éruptions qui se produisent tous les 2-3 ans en moyenne. Je m'appelle Pat Leinarsson, je suis géophysicien. J'ai étudié les volcans et les tremblements de terre pendant toute ma carrière.
Et qu'est-ce qui vous a fait vous spécialiser sur les volcans ?
C'est très difficile de répondre à cette question. Mon père était très intéressé par tout ça. Il était ingénieur, mais je crois que ce qui a amplifié son intérêt pour les volcans, c'était l'éruption de Hekla en 1947. C'était un événement très important de l'histoire islandaise. Et il se trouve que je suis né presque en même temps que l'éruption, 2 jours avant en fait. Donc, pendant ma jeunesse, Hekla était un sujet récurrent de conversation. Les volcans font partie de la vie en Islande. Ils font tout le temps la une des infos. De plus, il est maintenant de notoriété publique que sans volcans ici, l'Islande n'existerait pas. La frontière entre les plaques nord-américaines et eurasiennes passe directement par l'Islande. Et une grande partie de l'activité volcanique a un lien direct avec ça. L'Islande s'élève, elle est sortie de l'océan grâce aux volcans. La plupart des gens ont conscience de ça. Donc si nous voulons vivre ici, nous devons vivre avec les volcans. D'un autre côté, ils peuvent être assez effroyables. Les gens en ont peur aussi. Donc ils ont une relation quasi schizophrénique avec les volcans.
Du verre qui se brise, ça ressemble à ça, le son de la lave qui s'écoule quand tu es près. Comme un éboulement ou le son d'un avion. C'est comme si plein de camions roulaient très rapidement.
Comme le son de la mer.
Quand il y a beaucoup de vent.
Et l'odeur, vous en souvenez?
Non, pas trop.
Ah, mais il y a cette pierre jaune juste là.
C'est, je ne suis pas certaine du mot en anglais. Je crois que c'est du soufre. Là, comme ça.
C'est une petite roche jaune et noire qui est sous un petit dôme en plastique dans la bibliothèque.
Il reste encore un peu d'odeur.
Ah oui, ça sent un peu le soufre, ouais.
Cette pierre est là depuis l'an 2000.
Ça date de l'éruption de l'an 2000.
Oui.
C'est un géologue qui a donné cette pierre à ma grand-mère.
Ils l'ont prise quand elle était encore chaude et ils l'ont ramenée ici.
Svala, the lady who lives here, she was from Westman Island.
Svala, ma belle-mère qui vivait ici, venait des îles Westman. Elle a rencontré Sverrir, son mari, à l'occasion de l'éruption du volcan de 1947.
So she came here like to look at the volcanic eruption.
Elle était venue regarder l'éruption volcanique et c'est comme ça qu'elle a rencontré le garçon de la ferme la plus proche de Hekla.
Il guidait les touristes vers Hekla.
Donc l'histoire de la famille est très liée à l'histoire du volcan finalement.
Ils ne se seraient probablement jamais rencontrés s'il n'y avait pas eu l'éruption. Et la sœur de mon père, qui est géologue, est née un an à peine après l'éruption.
Mais les gens qui vivaient ici en 1947, quand Hekla est entrée en éruption, la femme a eu très peur de Hekla. Et après ça, elle ne pouvait plus vivre dans cette maison.
Et c'est à ce moment-là que mon grand-père a déménagé ici. Il a emménagé juste après qu'il soit parti.
Oui, ils sont partis en 1948. Et personne ne vivait ici entre 1949 et 1950. Puis en 1951, ils ont emménagé. Mais peut-être que vous voulez parler à Sverrir et lui demander directement.
Donc là, on est dans la maison de votre beau-père ici.
Oui, c'est lui qui a peint ça.
C'est beaucoup de peintures des volcans et des montagnes aux alentours, c'est ça?
Oui, il a peint beaucoup de toiles représentant Hekla, mais il les a données ou vendues.
Il dit que c'est une longue histoire. Le souvenir le plus fort qu'il a, c'est quand il a regardé par la fenêtre et vu l'éruption pour la première fois. Il se rappelle l'avoir vu à 6 heures du matin. Et à 11 heures, quand ils sont sortis, ils ont vu la rivière Runko devenir complètement folle. À cause de l'éruption, la neige avait tellement fondu qu'il y avait beaucoup plus d'eau que d'habitude dans la rivière. Et ils ont su que l'éruption était en cours. Avant midi, il faisait nuit dehors. À cause de toutes les cendres, il faisait aussi sombre que pendant la nuit. Il a passé la majeure partie de sa vie ici, donc il ne connaît rien d'autre que d'être près d'Hekla. C'est tout ce qu'il connaît, d'une certaine façon, elle fait partie de son monde.
Il a été dit.
Il ne dirait pas qu'il a peur d'elle, mais il se méfie de ce dont elle est capable, plutôt que d'en avoir peur. C'est comme s'il gardait un œil sur elle. C'est, disons, une pensée rassurante d'être aussi bien informée par les géologues. Donc, c'est une bonne chose de savoir que nous aurons toutes les informations à temps. Si quelque chose se passe, on sera au courant.
Il y a eu des morts causées par éclats pendant des éruptions volcaniques. Mais la dernière victime remonte à 1947. C'était un scientifique qui s'est approché trop près de l'écoulement de la lave. Et il est mort à cause d'une projection de roche. Plus récemment, l'une des pires catastrophes liées à l'activité volcanique que nous avons connue s'est produite sur la péninsule de Reykjanes, juste à côté de Reykjavik. Il n'y a eu ni mort ni blessé, mais cela a détruit beaucoup de maisons. Et par exemple, la ville de Grindavik est inhabitable pour le moment. Il n'y a qu'un seul événement dans l'histoire récente qui a été aussi destructeur. C'était l'éruption du volcan Emae en 1973. Si on remonte un peu plus loin dans l'histoire, il y a l'éruption du volcan Laki en 1783 qui a provoqué des famines, beaucoup de destruction, une détérioration du climat et aussi l'empoisonnement du bétail. Et du fait de cette éruption, environ un cinquième de la population est morte. Cet événement a également eu des répercussions importantes dans d'autres pays et serait à l'origine de catastrophes plus graves. Certains historiens ont même écrit que cette éruption a pu déclencher certaines révoltes, et notamment la Révolution française qui s'est produite quelques années après. Aujourd'hui encore, un événement de cette envergure serait certainement très destructeur et aurait des conséquences à l'échelle mondiale. Cela ne fait aucun doute.
Et le volcan Hekla, qui est la raison de ma venue ici, qu'est-ce qu'il représente pour les Islandais et pour vous ?
Hekla est spécial because it is located.
Hekla est particulière parce qu'elle était assez proche des foyers de peuplement importants dans l'ancienne Islande. Donc on le remarquait immédiatement quand Hekla faisait quelque chose. D'autant que certaines de ces éruptions ont été assez spectaculaires et impressionnantes. Hekla a la forme typique d'un volcan en forme de cône. Mais si vous la regardez de côté, elle ressemble plus à la coque d'un bateau à l'envers. Elle n'est pas extrêmement haute. Elle fait seulement 1500 mètres d'altitude. Et elle n'est pas très vieille. Elle est active depuis environ 700 000 ans. Les volcans ont généralement un million d'années d'existence, quelque chose comme ça. Donc Hekla est un volcan très récent. Et j'ai été impliqué dans l'étude de la plupart de ces éruptions.
Alors, ça ressemble à quoi d'être près du volcan Hekla qui entre en éruption ?
Si c'est une grosse éruption, c'est vraiment majestueux. Quelque chose de fondamental se passe dans votre âme, lié au paysage. Quand vous voyez des choses que vous avez l'habitude de considérer comme des fondations solides sur lesquelles vous pouvez construire votre vie, alors soudainement, vous réalisez que ce n'est peut-être pas aussi solide que ce que vous pensiez. Donc si vous avez l'occasion de voir une éruption volcanique sans vous mettre en danger, l'expérience en vaut vraiment la peine. Ça change profondément votre rapport à la nature, au paysage et à la Terre elle-même.
Under the stars, feel the
Si loin, si proche. Écoutez, vous voyagez.
Now we are at the place called Theodwaldisbeieren, the Commonwealth.
Là, nous sommes dans un lieu qui s'appelle Theodwaldisbeieren, la ferme du bien commun. Et c'est la réplique d'une maison qui s'appelait Stunk, qui datait du 11e siècle. Et en 1104, elle a été ensevelie lors de l'éruption du mont Thécla, mais elle a été conservée sous les couches de cendres. C'est comme ça que les archéologues ont pu la retrouver et la dater. La maison a une âme, je pense. C'était la maison du chef de clan viking de toute cette vallée. Je suis tombée amoureuse de cet endroit et maintenant me voilà ici.
Avec Victorie, guide d'origine tchèque qui est allée rencontrer Brisson de Lauer, on continue de voyager aujourd'hui en Islande, à l'ombre du volcan Hekla. Dans un lieu bien particulier, on l'a entendu, situé au sud de l'île, parmi la roche basaltique et de vastes étendues de landes rases en été du moins, là où se dévoilent de curieux vestiges qui nous ramènent au premier temps de la colonisation en Islande par les Vikings, ces fameux explorateurs du Nord. Après quoi, à partir de l'année 930, va s'établir l'État libre islandais. Une organisation sociale, politique, pionnière, sans roi ni pouvoir exécutif central, qui va perdurer jusqu'à ce que cette terre, isolée mais convoitée, passe sous le joug norvégien, puis danois. Et en 1944, la République islandaise est proclamée. Ce temps des hommes, 1150 ans à peine en Islande, paraît bien pâle au regard des temps géologiques que renferment les terres noires, fumantes et fracturées d'Islande. C'est d'ailleurs ce qui fait la force et le magnétisme des lieux. On retourne sur le site historique de Stunk, à l'ombre du volcan Hekla, avec Victorie.
En fait, ce qui m'a fait rester, c'est probablement les gens que j'ai rencontrés ici. Quand j'étais en République tchèque, j'étudiais la chimie, mais j'ai quitté mes études pour voyager. Je suis arrivée ici, en Islande, avec mon sac à dos, au mois de mars. Et depuis, je vis avec une famille islandaise. J'apprends leur langue, donc je suis vraiment immergée dans leur culture. Les gens ont été très accueillants. Ils m'ont intégrée à leur famille. Ils m'ont raconté plein de choses sur l'Islande. Ils m'ont parlé de l'histoire, des paysages. Je suis tombée amoureuse de tout ça. et j'ai voulu en savoir plus sur la culture.
Donc là, là où on se trouve en ce moment, on ne peut pas voir le volcan Hekla, il est caché par cette montagne, mais il est quand même très proche.
Oui, Hekla, à vol d'oiseau, c'est environ 15 kilomètres. Et là, nous sommes sur une petite colline située à côté de la maison. Et nous sommes protégés par une montagne qui s'appelle Burfak. Et depuis cette montagne, on peut voir une cascade qui se jette dans un ruisseau au fond d'une petite vallée. Il y a beaucoup de mousse autour de nous. Il y a aussi une fleur qui s'appelle la lupine. Et de l'autre côté, plus loin, on voit une chaîne de montagnes et derrière quelques arbres.
Et une petite forêt de bouleaux. Ce n'est pas si fréquent de voir des arbres en Islande.
Non, aujourd'hui en Islande, seulement 1,5% du territoire est recouvert d'arbres. Mais quand les premiers colons sont arrivés à l'époque, c'était 30% de la terre. Ils ont tout coupé pour construire des bateaux, des bâtiments et pour le chauffage.
Donc là, on rentre, on voit le... il y a de l'herbe sur le toit. C'est quelque chose de très traditionnel de l'époque.
Oui, c'est très traditionnel parce que toute la maison est recouverte de gazon. Ils arrachaient les racines et les laissaient sécher pendant un an. Et ensuite, on pouvait construire à partir de cette terre. Et quand ce bâtiment a été construit, au départ, il n'y avait que de la terre. Mais quand la pluie tombe, l'herbe s'est mise à pousser. Donc ça, ce sont les toilettes, les anciennes toilettes des Vikings.
Right. Il faut se baisser presque à quatre pattes pour passer.
First, it was not built for museum purposes. It was
au départ. Cet endroit n'a pas été construit pour en faire un musée. C'était juste pour les Islandais, pour qu'ils puissent se souvenir de leur passé.
Donc là, on est entouré de terre et de roches. Et ça permet d'extrêmement bien protéger des tempêtes, j'imagine.
Exactly, the turf is great.
Tout à fait. Les murs en gazon sont un très bon isolant. Ils font 1,5 mètre d'épaisseur. Donc il n'y a presque pas de froid ou de vent qui rentre. Nous sommes très protégés.
Mais ça ne les protégeait pas des éruptions volcaniques.
Non, pas du tout. Quand ils ont vu Hekla rentrer en éruption, ils étaient probablement effrayés et ils ont dû courir pour se sauver. Parce que Hekla est un volcan bouclier. C'est comme une bouteille de champagne. Il y a beaucoup de pression à l'intérieur. Donc quand il y a une éruption, les pierres s'envolent. On raconte même qu'une pierre de Hekla a tué quelqu'un à 100 km de distance. Ça donne une idée de sa puissance. Les gens ont certainement quitté cet endroit en courant, mais la question c'est, est-ce qu'ils ont tous été assez rapides pour éviter les roches en fusion et les cendres? Peut-être que certains y ont laissé leur vie.
Est-ce que vous avez déjà été au sommet de Hekla ou est-ce que vous en êtes rapproché?
Je n'ai jamais été au sommet de Hekla. Avant d'arriver en Islande, j'avais très peur des volcans. Et depuis que je suis ici, je ressens un profond respect pour eux. Il n'y a aucune raison d'avoir peur si vous ne grimpez pas à leur sommet ou si vous ne vous en approchez pas trop pendant les éruptions. Moi, je suis amoureuse des volcans et j'attends avec impatience que Hekla entre en éruption.
Je pense que nous, les Islandais, avons une relation particulière à nos volcans. Car même s'ils sont dangereux et qu'ils ont tué beaucoup de monde à travers les âges, nous les aimons malgré tout.
Je m'appelle Sigridur Hagalín Björnsdóttir. Je suis écrivaine, romancière et journaliste en Islande. En tant que journaliste de télévision, les plus belles histoires que j'ai couvertes sont les éruptions volcaniques. Elles sont si belles, si dramatiques et si dangereuses. Et comme il ne se passe pas tant de choses passionnantes en Islande, au moins nous avons ça. Nous avons la nature. Nous sommes restés longtemps sous domination danoise. Et lorsqu'au XIXe siècle, nous avons commencé à nous battre pour notre indépendance, nous avons cherché ce qui nous distinguait du reste de l'Europe et pourquoi il était important d'avoir notre propre nation. Et comme les glaciers, les grandes cascades et les montagnes sont devenus partie intégrante de notre identité nationale, les volcans aussi ont joué ce rôle. Et nous avons commencé à nous considérer comme les enfants des volcans. C'est une admiration très romantique et un peu enfantine pour une chose qui, à nos yeux, nous distingue des autres. Et je crois que c'est unique, car je n'ai jamais entendu parler d'enfant qu'on aurait appelé Krakatoa. Mais ici, j'ai quelques cousins qui s'appellent Ekla. Je pense que c'est fascinant d'avoir quelque chose d'aussi incontrôlable dans sa vie. Quelque chose qu'on ne maîtrise pas, mais avec lequel il faut s'habituer à vivre. On sait bien ici que ce sont des forces bien plus grandes que nous, et que nous devons être prêts à obéir quand le volcan nous appelle. Il y a aussi des légendes et des histoires populaires à propos des volcans. Ils sont parfois vus comme des femmes trolls ou des géantes. On a aussi parlé de sorcières. Il y a tellement de magie qui les entoure. Par exemple, il y a cette histoire d'une dame étrange qui s'est enfuie dans la montagne et tout à coup, la montagne est entrée en éruption. Donc, en général, la règle, c'est que les volcans ont des noms féminins et les glaciers ont des noms masculins.
Et comment est-ce que vous interprétez cette tradition ?
Je crois qu'il y a cette métaphore courante entre le volcan et le corps féminin. La monstruosité du corps féminin qui peut tomber enceinte, donner la vie, et toute la férocité de l'amour féminin. Il est très facile de faire le lien entre cette image et celle d'un volcan. On a dit d'ailleurs qu'Ekla était la porte des enfers. Et c'est aussi ce qu'on disait du corps féminin, comme si les hommes seraient conduits à leur perte s'ils suivaient les femmes. Donc, il y a aussi ce lien, je crois. J'ai aidé mes parents à ranger leur bibliothèque et j'ai trouvé ce livre qui présente 50 ans de représentation féminine pour la Dame de la Montagne.
It's from the 17th of June 1961.
Il y a cette photo qui date du 17 juin 1961. C'est une photo de ma grand-mère qui était actrice. Et là, elle incarne la Dame de la Montagne. Elle porte une robe traditionnelle islandaise. C'est une robe noire ornée de fleurs. Et elle a une ceinture dorée autour de la taille. Elle a une coiffe blanche. C'est presque comme un énène, ce que les femmes portaient au Moyen-Âge. Et elle a ce tissu blanc qui descend le long de son dos. Je ne sais pas, elle devait avoir 35 ans, quelque chose comme ça. Je crois que c'est le moment le plus important dans une vie d'actrice que d'être choisie comme ça. C'est un très grand honneur. La Dame de la Montagne est une figure mythologique, poétique ici. Elle symbolise à la fois la nation et la nature d'Islande. Et elle est souvent représentée assise sur un rocher dans la nature sauvage. On pourrait la comparer à Ekla. Comme Ekla, elle est juste assise là, en train d'attendre quelque chose. Ekla est un peu comme ça. Elle est la Dame de la Montagne dans notre inconscient maintenant. Et je crois que nous sommes un peu fous à ce sujet. Dès qu'il y a une éruption volcanique ici, les gens deviennent tout excités. C'est comme un jour férié en Islande. C'est un peu bête, mais tout le monde prend la route, saute dans sa voiture pour aller voir le volcan, parce que tout le monde veut le voir entrer en éruption.
mais ça fait partie du frisson de vivre ici.
Hekla se comporte très différemment des autres volcans que je connais. Nous pensions avoir compris Hekla. Mais depuis 1961, au lieu d'entrer en éruption une à deux fois par siècle, elle a commencé à entrer en éruption tous les 10 ans. Après l'éruption de l'an 2000, on s'est dit, maintenant on sait que la prochaine éruption sera en 2010. Mais cette éruption n'est toujours pas arrivée. Donc il semble que Hekla ait, encore une fois, changé la règle. Et je crois que la leçon à tirer de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de règle. Et c'est ça la nouvelle règle. Par exemple, Hekla ne produit pratiquement jamais de tremblement de terre. Donc Hekla a l'air complètement morte. Mais on sait que ce n'est pas le cas.
Une chose qui me surprend beaucoup, c'est qu'on personnifie les volcans en Islande, on leur donne une voix féminine, souvent. Est-ce que vous avez, vous aussi, l'impression d'être près d'une personne quand vous êtes près d'un volcan ?
Eh bien, je pense que l'on peut voir ça de deux façons différentes. Je crois que cette histoire de genre liée aux volcans est uniquement liée à notre grammaire. Dans la grammaire islandaise, nous avons des genres. Hekla est un nom féminin. Donc quand nous en parlons, nous disons « elle ». Mais d'autres volcans ont des noms masculins. Je crois que c'est une considération grammaticale. Ça n'a rien de personnel. Et d'un autre côté, et cela résume beaucoup mon approche des volcans, on peut dire que les volcans ont chacun leur personnalité. La plupart se comportent différemment les uns des autres. Et c'est lié au développement du système magmatique qui les nourrit. Certains sont tout simplement en train de dormir, ils ne font rien. Donc c'est vraiment notre mission de définir d'un point de vue scientifique le comportement individuel de chaque volcan.
Qu'est-ce que ça fait de vivre dans un pays où il y a un tel champ d'incertitude par rapport à l'activité volcanique qui peut potentiellement être très explosif et très dangereux d'un coup?
C'est très réjouissant. La plupart de ces volcans ne sont pas si proches que ça des habitations. Donc, ce n'est pas un désastre. Du moins, pas encore.
My third novel is called The Fires, Eldarnir, Love and Other Disasters.
It's a troisième roman s'appelle Éruption, Amour et autres cataclysmes. C'est un roman que j'ai écrit et qui parle de science, d'amour et de volcans.
It's about a scientist.
C'est l'histoire d'une scientifique. Elle s'appelle Anna. Elle est géoscientifique ici, en Islande. Et elle est très intelligente. Elle a une vie presque parfaite avec son mari et sa famille. Mais ensuite, l'éruption arrive, dans l'océan, près de Reykjavik. Et au même moment, elle tombe amoureuse de quelqu'un dont elle ne devrait pas tomber amoureuse. Donc, alors que la Terre se brise en morceaux et détruite par l'activité volcanique, sa vie est détruite par l'amour. L'idée m'est venue par hasard. Je cherchais un sujet d'écriture et ça m'a frappé. Il n'y a rien de plus romantique et violent qu'une éruption volcanique. Il n'y a pas de meilleure métaphore pour dire le cœur humain qu'un volcan. Ils peuvent détruire nos vies. Et en même temps, ils produisent des choses magnifiques. C'est pour ça que j'ai choisi ce sujet.
Hekla er fjallshryggur, klofin að endilöngu með gossprungunni Heklugjá, megin eldstöð samnefnds eldstöðakerfis vestast í austur gossbeltinu. Hnarri strotning íslenskra eldfjalla, meiprinsessa, Drekin sem vokir yfir frjósumum sveitum Suðurlands, inngangurinn að Víti. Hekla allt þetta og líka bara hrúa af hrauni sem hefur hlaðist upp í 1500 metra hæð í gosum undanfarina 7000 ára.
C'est le début du chapitre de votre livre sur Hekla.
Basically it's a mountain ridge.
Oui, en gros, ça dit comment Hekla est une montagne accessible, mais aussi elle est la reine des volcans d'Islande. Elle est une princesse vierge, le dragon surplombant les campagnes fertiles de la province de Sudurland, mais aussi la porte de l'enfer. Parce qu'on a l'habitude de voir l'amour comme une chose constructive, on en fait un terme positif, mais on a tendance à oublier que c'est aussi une force destructrice, très puissante. C'est pareil pour les volcans, ils produisent plus de terre, ils agrandissent la taille du pays, et en même temps, ils détruisent beaucoup de choses dans leur avancée. Dans le passé, les gens d'ici comme ailleurs aussi, je crois, voyaient la nature comme quelque chose de dangereux, d'interdit. Cela pouvait te tuer, surtout ici, où les pêcheurs partaient sur leurs petits bateaux et trouvaient la mort en mer, ou simplement en allant d'une ferme à une autre. Vous pouviez mourir en plein hiver à cause des forces de la nature. Donc la nature d'Islande était un monstre. Et bien sûr, les volcans faisaient partie de cette nature monstrueuse et sauvage que vous ne pouviez pas contrôler. C'était aussi l'une des raisons pour lesquelles les femmes ont été tant dominées, parce qu'on considérait qu'elles avaient en elles de cette nature sauvage et incontrôlable. On voulait donc les enfermer, les confiner, pour que les choses ne dégénèrent pas. Mais c'est une très vieille symbolique. Ces symboles sont anciens et ils ont évolué à travers le temps. Aujourd'hui, nous chérissons la nature sauvage et la voyons comme positive. Donc la réputation des classes s'améliore et heureusement celle des femmes aussi. Mais c'est tellement plus grand que nous. Et bien après que nos maisons ou nous-mêmes aurons disparu, ces volcans, eux, seront toujours là, même si plus personne ne se souvient de leur nom. Et c'est une belle idée, c'est une pensée réconfortante. Elle nous rappelle notre mortalité, je crois. Elle nous montre à quel point nous sommes petits. Et je crois qu'il est bon de se le rappeler. Parce que tout est tellement centré sur l'être humain de nos jours, nous occupons tellement d'espace dans le monde. Je crois que c'est bien de se sentir petit de temps en temps. Dans un sens, j'espère que les volcans nous ont préparés à tous les grands changements à venir, car je crains que nous connaissions des événements bien plus dramatiques que ceux auxquels les volcans nous ont habitués.
Parce que les colères de la Terre sont impondérables, à ce jour, le volcan Hekla n'est plus entré en éruption depuis l'an 2000. Mais ailleurs en Islande, les récentes éruptions près du village de pêcheurs de Grindavik ont offert, après 800 ans de sommeil dans le sud-ouest du pays, un spectacle de fin du monde ou de début. Merci à Adeline Dont de l'Alliance française de Reykjavik. Merci à Sigridur Agalin Jøndutir, autrice de Éruption, Amour et autres cataclysmes paru en France aux éditions Gaïa. Merci à tous les participants de ce reportage et à toutes les voix amies pour les traductions. Merci enfin à Alice Ego. Brice Andlauer, Laura Larry, Céline de Velay-Mazurel, on vous salue, auditeurs, auditrices si loin si proches. Rendez-vous la semaine prochaine sur l'antenne de la Radio Mondiale et à toute heure et à tout moment sur RFI Pure Radio et toutes les autres plateformes. En podcast.